Europe 1,
9h-11h,
Wendy Bouchard.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Europe 1. On fait le tour de la question en ce jour de match des Bleus, des filles déjà qualifiées pour les huitièmes de finale, mais qui suscite un engouement magnifique et qui affronte ce soir depuis Rennes le Nigeria. 9-10 millions de téléspectateurs pour leur premier match. Que disent ces scores de notre équipe de foot féminine et des valeurs des filles dans ce sport? Plus de machisme qui vaille, elles jouent comme des pros et c'est un régal, tout simplement un régal. Vous nous appelez pour réagir. Si vous avez suivi ces rencontres, si vous continuez de le faire, ce qu'elles vous inspirent, le standard est ouvert. Bonjour ma chère Julie.
Bonjour Wendy, vous nous appelez au 39-21, 50 centimes la minute.
Et on a aligné une sacrée équipe ce matin, je vous présente nos invités dans un instant. Et puis à 10h, pourquoi les procès des personnalités politiques ou people d'ailleurs nous fascinent autant? Notre invité, l'avocat Emmanuel Pierrat, publie Star à la barre, de Michael Jackson à Johnny Hallyday. Comment se déroulent ces procès? Les juges sont-ils plus indulgents ou au contraire plus durs avec ces justiciables un peu particuliers? On fait là encore le tour du sujet. C'est le programme de ce lundi 17 juin de 9h à 11h sur
9h-11h, on fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1.
Et avec une grosse ambiance attendue à Rennes ce soir à partir de 21h, mais dans le studio d'Europe 1 à partir de 20h avec aux commandes Lionel Rousseau. Bonjour Lionel.
Bonjour Wendy.
Merci d'être avec nous de bon matin, associée à Sandrine Roux, ancienne joueuse de l'équipe de France et consultante pour Europe 1. Bonjour Sandrine.
Bonjour Wendy, bonjour à tous.
J'accueille également Anissa Dadi, que vous connaissez bien ici pour toutes ses animations, mais aussi pour son geste footballistique. Chère Anissa, bonjour.
Bonjour Wendy, bonjour à tous.
Qu'est-ce que j'apprends? Vous faites partie de l'équipe de foot d'Europe 1?
Absolument.
Depuis quelques mois?
Depuis le mois de janvier, on a lancé ça, ouais.
Au poste?
D'attaquante.
Bon, tout simplement, voilà. Mélina Boiti va nous rejoindre dans quelques instants, ancienne gardienne internationale de l'équipe de France. Et Julien Froment qui va couvrir à Rennes dans cette ambiance, ce match du soir. La France, chers amis, qui s'est déjà qualifiée pour les huitièmes de finale. Ça, c'est en raison des points obtenus, Lionel Rousseau, pour faire court dans ce groupe A?
Absolument, la France doit terminer première maintenant, donc il faut au moins un match nul. Mais on attend surtout une victoire et une large victoire face au Nigeria pour que l'équipe de France soit totalement invaincue et écrasée ce premier tour pour que la liesse continue.
C'est ça, ce ne sera pas qu'un match pour l'honneur. Hein. Il faut gagner ce soir pour plusieurs raisons, Sandrine Roux, et pour justement fortifier cet enthousiasme.
Oui, comme l'a dit Lionel, effectivement. Hein, Corinne Diacre l'a bien dit aussi, elle veut la première place. Donc elles vont tout faire pour effectivement finir première et continuer toute cette bonne onde positive et tout le peuple français derrière cette équipe de France.
Ah oui, comment on joue ce type de rencontre qui n'est pas coup près, mais justement qui est important symboliquement à la fin d'un groupe, comme ça?
Elles vont attaquer le match, en tout cas. Elles vont essayer de rester dans le camp des Nigérianes et leur mettre la pression et leur mettre le plus de buts possible.
Bon, vous serez en direct aux commentaires. Salut Julien Froment.
Bonjour.
Au Rosen Park de Rennes. Première rencontre du genre à suivre dans cette enceinte, avec une ambiance très particulière qu'on peut attendre autour de vous ce soir.
Oui, bah écoutez, Rennes, c'est un petit peu une terre de football. Donc le Roazhon Park avait déjà accueilli l'équipe de France il y a quelques temps. Et d'ailleurs, c'était là que la France avait obtenu son meilleur taux d'affluence avec 24 000 spectateurs.
Ouf.
Ce soir, ce sera à nouveau à guichet fermé. Les deux précédents matchs de l'équipe de France étaient aussi combles. 45 000 spectateurs au Parc des Princes, 34 000 spectateurs du côté de Nice. Et bien à Rennes, c'est pareil, le stade de Rennes, il y aura 25 000 personnes pour acclamer les Bleus. Et c'est vrai que cet engouement, et bien, il perdure parce que l'équipe de France eh bien, séduit les supporters et des nouveaux supporters aussi qui se prennent d'amour pour ces Bleus qui ont pour le moment des résultats formidables.
C'est magnifique. Ça a combien de billets vendus pour cette Coupe du Monde, Lionel Rousseau? Et le taux de remplissage est conforme aux espérances?
Quasiment tous. Alors parfois on a le sentiment que certaines, pas pour les matchs de l'équipe de France bien sûr, mais certaines places sont vides, mais ça a été quasiment carton plein pour toutes les rencontres. Les Américaines ont beaucoup acheté de billets parce qu'elles se voient, mais comme souvent chez les Américains, dans toutes les disciplines, c'est comme ça. Ils se voient déjà en finale ou remporter le titre. Et puis en France, évidemment, cet engouement exceptionnel avec le parcours des Bleus.
Ça fait 20 ans que la FIFA organise la Coupe du Monde de foot des femmes. C'est peut-être la première fois que nos auditeurs en entendent parler. Bon, d'abord simplement parce qu'elle est organisée à la maison, en France cette année, mais aussi parce qu'on a une équipe de France particulièrement aiguisée aussi pour ce cru 2019.
C'est une équipe de France qui, par le passé, est souvent allée très loin dans les compétitions, mais est tombée au pied du podium. Oui. C'est-à-dire qu'il manque le titre, ou il manque des matchs références ou des matchs historiques qui permettent d'entrer dans la mémoire collective, comme ça a été le cas chez les garçons. À chaque fois, donc, cette équipe à pratiquer du bon football. C'est évidemment un talent indéniable que l'on retrouve dans les équipes de France et notamment dans celle d'aujourd'hui. Mais il manque toujours ce titre. Il manque toujours la possibilité d'écrire l'histoire et peut-être que ça se fera cette année.
Anissa Dadi, alors vous êtes journaliste à Europe 1, mais aussi une femme portée par cet engouement, j'imagine. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, ces filles, vous qui tâtez aussi un peu du ballon maintenant?
Elle inspire surtout une très grande évolution. On a remarqué là depuis cette année que tout le monde s'intéresse au foot féminin, ce qui n'existait pas avant. On commence à croiser des supporters. Moi, ce week-end, j'ai vu plein de supporters américains qu'on a un petit peu chambrés dans les rues de Paris parce qu'ils sont vraiment à fond. Ça n'existait pas, ça, avant. Je pense que si on avait fait 7 Coupes du Monde il y a 15 ans en France, elle serait passée presque inaperçue. Aujourd'hui, les stades sont pleins, comme vient de le dire Lionel. Il y a un engouement qui, en plus, est familial. Aujourd'hui, il y a des enfants de 7-8 ans à l'école qui parlent de la Coupe du Monde de femmes. Il y a les gamins qui parlent de Wendy Renard. Il y a des enfants qui parlent de Gaëtan Tinet. Tout le monde parle de l'équipe de France. On commence à connaître les noms. Ça devient populaire. Et alors, il reste des choses à faire, hein. Je vous cache pas
Il y a des choses. On parle de la réalité en dehors de la Coupe du Monde.
Du côté des salaires, du côté des équipements pour les femmes, du côté de la médiatisation. Parce que quand la Coupe du... qu'est-ce qui va se passer le 8 juillet? La Coupe du Monde, elle s'arrête le 7. Si les Françaises sont championnes du monde, ce qu'on souhaite tous, effectivement, ça va durer encore quelques semaines. Mais si la compétition s'arrête plutôt pour les Françaises, qu'est-ce qui va se passer le 8 juillet? Est-ce que l'engouement pour le foot français et le foot féminin va continuer? C'est ça toute la question. Il faut que ça continue.
Oui, et c'est une vraie question aussi que vous soulevez depuis plusieurs années, Sandrine Roux, comme joueuse de l'équipe de France, comme consultante aujourd'hui. Vous avez ces espoirs teintés de crainte aussi, j'imagine?
Oui, enfin, déjà, je pense que la Coupe du Monde en France est réussie, déjà aujourd'hui.
Ah oui.
Parce que il y a même des gens, je discute avec des personnes dans la rue qui ne regardent pas le foot, mais qui ne s'intéressent pas du tout au foot, tout simplement. Et mais qui se prennent de plaisir à regarder cette équipe de France féminine, alors qu'elles n'aiment pas le foot, c'est quand même.
Et ça, comment vous l'expliquez alors, justement? Parce que ces filles, avec leur valeur, avec leur technicité, apportent quelque chose.
Parce qu'elles sont sympathiques, parce qu'elles sont ouvertes, parce qu'elles ne jouent pas pour des millions, parce
voilà,
que
c'est
tout,
moins
tout ce qui est autour.
Y a ça aussi.
Et je discutais aussi avec des anciens footballeurs il y a 50 ans. Ils se retrouvent.
C'est ça, elle nous rappelle le foot d'avant.
Parce que le jeu n'est pas fermé, ça va vite d'un but à l'autre, il n'y a pas de triche. Quand on voit effectivement des décisions d'arbitre parfois qui sont limites, aucune joueuse ne conteste. Enfin,
ça ne se roule pas par terre toutes les deux secondes, comme les garçons.
C'est vrai que c'est ce qui plaît aussi, cet enthousiasme, ces filles qui sont toujours souriantes et ouvertes.
Oui, Julie.
On a un message sur Facebook de Sébastien. Elle joue mieux que les hommes, il y a plus de respect, moins de fautes, donc plus de jeux.
Ah, intéressant, Lionel Rousseau.
Elle rassemble aussi. Parce qu'elle nous ressemble. Elle nous ressemble, et c'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais parce qu'elle rappelle le football amateur. Vous savez, dans ces grands matchs de Coupe de France, quand les professionnels affrontent les amateurs, ceux qui travaillent tout au long de la journée et qui s'entraînent le soir et qui arrivent à éliminer ces professionnels qui gagnent énormément d'argent. Bien, ce rapport, en fait, il existe aujourd'hui. Ces filles, elles ne gagnent pas énormément d'argent, en tout cas pour la plupart. Il y a 2-3 grands clubs en D1 féminine, avec l'Olympique Lyonnais d'ailleurs qui a remporté la Ligue des Champions et qui rafle tout. Mais elles sont proches de nous. C'est pour ça que ce sentiment de fraîcheur, de spontanéité nous égaye particulièrement. Et en effet, tous les vices que l'on peut retrouver chez les garçons, à savoir les chutes, les simulations, les protestations, et puis tout ce qui se passe en dehors, en coulisses, également avec les excès et les sorties de route de certains joueurs, ça n'existe pas avec ces jeunes femmes. Donc finalement, on retrouve des valeurs, des vraies valeurs du sport, et voilà pourquoi on est inspiré et elles sont inspirantes.
En fait, elles sont normales et accessibles. On a l'impression que les joueuses de l'équipe de France, on peut les croiser demain au supermarché, on pourra leur parler, elles pourront devenir nos copines. Les joueurs de l'équipe de France sont des méga stars. Alors attention, on les adore. Hein. On adore Mbappé, on adore Griezmann.
Qui va rarement au supermarché.
Qui va rarement au supermarché. Écoutez, je reste en bas de chez moi depuis des mois, je ne le crois pas. Mais on les adore, ces joueurs de foot. Sauf qu'on sait qu'ils sont inaccessibles. Ce sont des méga stars. On ne les croisera jamais et on ne les verra jamais. Pourtant, on en rêve tous. Et les filles, elles sont normales. Donc c'est ça qui est attachant chez elles.
Si elles pouvaient ramener un peu de rationalité et de valeur humaine dans ce foot, absolument, dans ce sport, ça serait formidable. Qu'aimez-vous dans cette équipe de France? Vous nous le dites au Standard Europe 1, mais aussi sur les réseaux sociaux. On est mobilisés avec Julie, avec Sandrine Roux, Lionel Rousseau, Anissa Dadi, Julien Froment, qu'on va retrouver à Rennes dans un instant, lui qui sera aux commentaires. Match à suivre en direct et en intégralité, bien sûr, ce soir sur Europe 1. Le dernier des Bleus pour le groupe A avant la qualification pour les huitièmes.
On fait le tour de la question avec laposte.fr/pro, la solution des pros pour affranchir en quelques clics jusqu'à 25 colis en même temps. Pourquoi un tel engouement pour l'équipe féminine de foot ? Wendy Bouchard et ses invités.
Dites-nous, chers amis auditeurs, si vous suivez cette Coupe du Monde, les matchs des Bleus, mais pas que d'ailleurs, hein, et quelles équipes vous font rêver justement sur les valeurs que relayait Lionel Rosso, journaliste au service sport d'Europe 1 qui couvre la Coupe du Monde féminine de foot et qui sera ce soir l'hôte de ce match avec Julien Froment en direct de Rennes, qu'on va retrouver dans un instant, Sandrine Roux, ancienne gardienne internationale de l'équipe de France, qui est avec nous, consultante pour Europe 1, Anissa Haddadi, attaquante du Meuf FC, le club de foot d'Europe 1, s'il vous plaît, ça rigole pas.
Respect.
Non mais respect, vous vous entraînez, vous jouez tous les mercredis ?
On joue tous les mercredis.
Vous les connaissez, ouais. Julien, ces filles, hein ?
Oui, bien évidemment. C'est, d'ailleurs, on peut le dire, c'est Fabien Etchecopar qui travaille au sein de la rédaction d'Europe 1 qui a lancé cette initiative et c'est super.
Et
c'est
qui nous coach. D'ailleurs, Julien, on aimerait bien que vous veniez commenter un match un mercredi
avec
soir.
Avec grand plaisir. Alors là, je suis un petit peu occupé, je dois bien l'admettre. Mais dès que la Coupe du Monde féminine est terminée, écoutez, je viens avec grand plaisir. Et même, je pourrais jouer avec vous. Si vous
Alors justement, Julien, quel plaisir, vous, qui habituellement, vous commenter et couvrez les matchs masculins, trouvez-vous avec cette Coupe du Monde cette année ?
Écoutez, pour moi, il n'y a aucune différence, que ce soit des filles ou des garçons sur un terrain, ça reste du football, le même sport, et à commenter, j'ai vraiment le même plaisir. C'est vrai qu'il y a peut-être moins de fautes, moins de joueuses qui se roulent par terre, même si j'émettrai quelques réserves parce que le foot féminin est en train de se professionnaliser. Et viendra le jour où il y aura ces petits vices, on va dire, qu'il y a déjà chez leurs homologues masculins. Mais moi, je vois aucune différence à commenter, que ce soit les France féminines ou le Paris Saint-Germain, ce que je fais tout au long de la saison pour Europe 1.
Oui, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de vous réfréner avec des tendances à dire comme les hommes, comme les garçons. Vraiment,
ah, mais je
ne
le dis jamais.
Voilà,
non.
Voilà, c'est totalement gommé, c'est même pas dans votre esprit. C'est ça que vous appréciez aussi, j'imagine, Sandrine Roux, en ayant rejoint cette équipe de talents sportifs à Europe 1. C'est que on traite les footballeuses comme des joueurs à part égale.
Oui, enfin moi je fais pas de différence. Donc voilà, comme disait Julien, c'est du football.
Mais vous l'avez vécu peut-être cette différence quand même comme joueuse aussi internationale.
Ah oui. Voilà. Ah oui. Oui, moi j'ai commencé en 1983 en équipe de France, donc vous voyez,
il y avait
beaucoup de boulot. Nous, effectivement, quand on s'est qualifié au championnat d'Europe 97, il devait y avoir deux journalistes, je crois, et ça a dû faire 4 lignes dans l'équipe. Donc, mais ce qui est bien, c'est que ça évolue aujourd'hui. Quand on voit 10 millions de téléspectateurs, quand on voit les stades pleins, on peut que se réjouir de tout ça. Enfin, franchement, vous m'auriez dit ça il y a 5-6 ans. Je vous aurais même pas cru. Enfin,
est-ce qu'il y a un effet quand même, bon, d'abord Coupe du Monde 98, Coupe du Monde 2018, avec cet engouement quand même dans la société française en particulier, Lionel Rosso qui explique ce phénomène.
Absolument, mais c'est peut-être un effet pervers, parce qu'en fait, les Français ont très envie de faire la fête et de communier avec leurs équipes sportives. On est très cocardiers, très patriotes, et on aime être derrière l'équipe de France, quelle qu'elle soit. Et le fait que les garçons aient gagné il y a un an maintenant, moins d'un an, on a envie de continuer à faire la fête. Et je trouve que ça peut mettre une pression supplémentaire à ces jeunes filles qui sont dans leur compétition, qui sont programmées pour gagner mais qui n'ont pas encore gagné. On pourra en parler peut-être un petit peu plus tard, mais en quart de finale, il est très probable que les Françaises rencontrent les États-Unis qui représentent la meilleure équipe du monde. Donc on peut avoir un effet de dépression ou un effet déceptif ou décevant après ce match-là. On ne le souhaite pas, bien sûr, mais cette euphorie populaire peut s'expliquer par le fait qu'il y a un an, il y a eu cette fête extraordinaire avec les garçons, et on a envie que ça se reproduise avec les filles.
Mais les Français seront plus indulgents avec les filles, je pense. Si jamais ça s'arrête avant la finale, les Français, je pense, seront plus sympas avec les filles, parce qu'il n'y a pas toute cette question de paillettes et d'argent, etc. Avec les garçons, on ne leur pardonne pas. S'il s'était arrêté en quart de finale, on aurait été hyper déçus. On aurait dit, voilà, une équipe de France qui n'était pas prête, etc. On ne pourra pas crier trop payé. Et je pense, enfin, en tout cas, j'ai le sentiment, alors c'est peut-être mon surplus d'optimisme, mais j'ai le sentiment que les Français diront, Eh ben, elles ont fait une belle compète. On était derrière elles. Et puis, on les attend pour les prochaines. J'ai ce sentiment que les Français sont quand même derrière les Françaises.
Ouais, mais puis, vous parlez de rémunération, de paye. Il y a quand même toute cette histoire aussi, en effet, d'inégalité de salaire. Mais il est aussi à l'exposition, à la surexposition médiatique. Il y a l'histoire des primes, alors qui ont fait beaucoup parler, je pense, à l'équipe d'Australie, Sandrine Roux. Un certain nombre de joueuses ont considéré qu'elles voulaient presque boycotter la compétition pour obtenir les mêmes primes que leurs homologues masculins. Comment vous situez-vous par rapport à ce débat, étant donné qu'en effet, les entrées commerciales, le rayonnement n'est pas le même aujourd'hui pour le foot féminin que le foot masculin, on va pas se mentir.
Oui, pour l'instant, il n'y a pas non plus une grosse économie concernant le football féminin. Donc, moi, quand j'entends effectivement beaucoup de personnes dire « Oui, mais la parité, elle gagne moins, mais il y a 5 ans, elle ne gagnait rien. Voilà, moi je dis step by step. Oui. Aujourd'hui, il y a des joueuses qui arrivent à gagner 20 000, 25 000 euros. Elles sont très peu en France, attention. Peut-être que dans 10 ans, elles gagneront 100 000 ou 150 000 parce que l'économie sera là. Je vois l'Olympique Lyonnais avec le président Aulas. Oui, mais beaucoup d'argent. Mais c'est surtout l'argent des sponsors, des garçons pour l'instant.
C'est ça.
La Fédération Française de Football investit beaucoup pour les féminines. C'est vrai que depuis que le président Le Graët est là, son cheval de bataille, c'était effectivement développer le football féminin. Et quand on voit ce que ça donne aujourd'hui, merci président. Il a su aussi s'entourer avec Brigitte Henriques, qui est la vice-présidente. Ça, c'est pareil, vice-présidente de la Fédération Française de Football.
Là, on est
une femme.
Aussi, hein.
Ouais. Et Laura Georges, la secrétaire générale.
Ouais.
C'est du jamais vu. Vous m'auriez encore dit ça il y a 5 ans, je serais tombée de la lune. Enfin,
ouais, donc pour la progression,
on ne se rend pas compte de tout ça.
Enfin,
le football, dans l'ensemble, était très machiste quand même. Et là, en peu de temps, on a cassé les codes. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne se rendent pas compte. Nous, ça fait 30 ans, enfin moi, ça fait 30 ans que je suis dedans. Quand je vois l'évolution, nous, le château, il était interdit aux femmes, à l'équipe de France féminine. Aujourd'hui, elles ont les mêmes droits que les garçons. Et effectivement, aujourd'hui, on dit encore qu'on vit sur la notoriété des garçons, c'est encore vrai aujourd'hui. Demain, si le football féminin vit par lui-même avec son économie, bien sûr que les filles seront mieux payées, bien sûr qu'elles auront peut-être les mêmes primes que les garçons.
Oui.
Aujourd'hui, c'est surtout ça. Bien sûr, je rêve de cette parité.
Bien
mais
sûr,
aujourd'hui,
mais...
voilà,
vous
encore une fois,
Lionel,
il y a 5 ans, il n'y avait rien.
Débat, quoi.
On ne se rend pas débat. On est même déjà, pour certaines joueuses qui sont starifiées dans ce débat, dans le débat financier, dans le débat du salaire. Par exemple, Adèle Hjerberg, qui est la meilleure joueuse du monde, qui a reçu le premier ballon d'or de l'histoire il y a quelques mois, devrait jouer avec la Norvège, sauf qu'elle a refusé pour des raisons de négociation de primes financières. Donc on s'est privé de la meilleure joueuse du monde pour cette Coupe du Monde. En tout cas, c'est elle qui a décidé de scier la branche sur laquelle elle était assise. Donc on est vraiment dans le débat aujourd'hui de, non pas peut-être de la parité, mais en tout cas de la négociation financière et d'une amélioration des revenus des femmes. Mais il y a un chemin incroyable qui a été parcouru, et je pense en plus que Sandrine peut en témoigner, puisqu'elle nous racontait sur Europe 1, et je pense qu'elle peut le refaire encore très très librement, comment elle a démarré au foot. C'est-à-dire que Sandrine, vous vous travestissiez quand vous étiez enfant pour jouer au foot.
La mixité était interdite. Moi j'avais une licence au Paris FC, qui est devenue d'ailleurs une équipe féminine aujourd'hui, donc je m'en réjouis aussi. et effectivement, moi j'avais une licence, mais j'avais le droit de faire que l'entraînement avec les garçons. Je n'avais pas le droit de faire de compétition.
D'accord.
On estimait que c'était trop dangereux pour une fille. Et mon père, comme il était entraîneur de cette équipe, les petits, les poussins, moi je lui ai dit, j'étais compétitrice dans l'âme. Moi c'était jouer, faire de la compète, gagner. Et il m'a dit, écoute, je vais te mettre dans les buts et on va te cacher les cheveux sous un bonnet l'hiver et sous une casquette l'été. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée aussi gardienne de but, parce que sur le champ avec une casquette ça paraissait bizarre.
Après,
et pendant 5 ans j'ai joué comme ça sous fausse licence. Alors j'avais la licence d'un garçon du Paris FC
incroyable.
Qui s'appelait Stéphane, donc tous mes petits copains, faut savoir que moi j'étais avec 800 garçons quand même au Paris FC, j'étais la seule fille, hein. Donc mes petits copains savaient, en face ils ne savaient pas. Et quand il y en a un qui échappait un petit peu, qui disait ah Sandrine, et les autres disaient tais-toi, elle va pouvoir jouer avec nous. Et je me rappelle sur les derniers temps c'était énorme parce que je commençais à 11-12 ans à me former, et on avait des maillots moulants à l'époque, et j'entendais des mamans d'équipe adverse qui disaient mais je te dis que c'est une fille dans les buts, je te dis que c'est une fille dans les buts, elle a la poitrine. Alors moi je me mettais comme ça pour que mon maillot il pend un petit peu, pour pas faire voir que moi ça aurait été
torride si on savait que j'étais une fille, je pouvais plus jouer avec mes copains et tout. Pour moi, le foot, c'était tous les jours. Mon frère joue aussi. On jouait partout. À l'école, j'étais la seule fille à jouer au foot. Et d'ailleurs, j'avais pas de copine parce qu'elle me disait, oh bah oui, de toute façon, si tu joues au foot et pas à la corde avec nous, bah, t'es pas notre copine.
C'est impressionnant cette histoire. Donc évidemment, voilà, j'ai dû me travestir
pour jouer, voilà, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc encore une fois, quand on voit la progression et ce qui est devenu aujourd'hui le football féminin, enfin, c'est énorme. Enfin, quand nous, on a vécu ça, voilà, je dis step by step parce que voilà, c'est
bien
comme pour
sûr,
les primes. Et les filles de l'équipe de France ne revendiquent rien par rapport à la masse salariale. Elles sont conscientes aussi de tout ça parce que la plupart, bon, certaines ont 30 ans, elles ont connu l'amateurisme. Mmh. Donc, entre ce qu'elles avaient pas avant et ce qu'elles ont aujourd'hui, pour elles, mais c'est un rêve, quoi. Elles sont aussi dans un rêve. Elles, elles le disent d'ailleurs.
On va parler justement de cette réalité du foot féminin en France, dans ces clubs amateurs ou division 2, division 1, aujourd'hui, derrière cette Coupe du Monde. Combien de licenciés femmes, par exemple? On va donner quelques chiffres à tout de suite sur Europe 1 avec nos invités Sandrine Roux, avec Julien Froment, Lionel Rosso, Anissa Haddadi et Mélina Bouetti qui va nous rejoindre dans quelques instants, ex-joueuse de Juvisy, qui a fait à la fois un documentaire et un ouvrage sur l'engouement pour le foot dans le monde entier. 33 millions de joueuses dans le monde. Little Miss Soccer, à tout de suite. Elles sont en pleine Coupe du Monde et elles nous font déjà rêver. Nous parlons de l'équipe française féminine de football jusqu'à 10h. Wendy Bouchard. Ce soir, la France rencontre le Nigeria. Dernier match du groupe A, 21h, à suivre dès 20h sur Europe 1. C'est Lionel Rosso qui animera cette grande soirée. Julien Froment, vous serez notamment aux commentaires. Sandrine Roux, associée évidemment, ancienne gardienne internationale, vous qui allez suivre encore cette progression de l'équipe de France, on le souhaite. Julien, on rappelle quand même que bon, cette Coupe du Monde a lieu en France, mais qu'aujourd'hui, seules 4 nations sont au palmarès de cette Coupe du Monde féminine qui existe depuis une vingtaine d'années, maintenant organisée par la FIFA, et que ce sont les États-Unis qui sont à la fois détentrices du titre et vraiment record dans tous les niveaux hein, de la Coupe du Monde.
Oui, bien sûr. Oui, les États-Unis, c'est la référence hein, en matière de football féminin. C'est bien simple, il y a eu 7 Coupes du Monde dans l'histoire. Eh bien, les États-Unis, à chaque fois, ont terminé au minimum sur le podium. Vous l'avez dit, c'est 3 titres en 91, 99 et donc la dernière Coupe du Monde en 2015. Mm-hmm. Et l'explication, elle est assez simple. Hein. Aux États-Unis, le soccer, c'est le sport universitaire par excellence chez les filles. Les jeunes filles jouent énormément au football. Et sur les 30 millions de licenciés à travers le monde, eh bien, il y en a 15 millions rien qu'aux États-Unis. Donc voilà l'explication de cette réussite de la Team USA dans le football féminin.
Bonjour Mélina Bouetti. Merci
d'être
merci beaucoup de rejoindre cette équipe qu'on a alignée ce matin sur Europe 1. Puisque Julien parlait à l'instant de foot version américain ou américaine, j'aimerais que vous nous disiez un petit mot de ce tour des femmes qui font le foot justement avec Candice Prévost. Vous avez à la fois fait un documentaire formidable et puis un ouvrage qui vient de sortir aux éditions Marie B, Little Miss Soccer. Qu'y a-t-il de particulier aux États-Unis pour que ce soit justement le sport de prédilection des filles? Le foot.
Mais déjà le respect des footballeuses qui sont des athlètes en puissance et qui sont reconnues pas depuis la Coupe du Monde de 2015 ou la Coupe du Monde actuelle, mais depuis des années, et notamment cette finale qu'elles ont gagnée en 99 devant plus de 90 000 personnes. Donc la reconnaissance, elle était importante pour les légitimer. Et ensuite, la popularité, parce que le vivier est énorme. Toutes les petites, dès l'âge de 4-5 ans, jouent dans tous les parcs, investissent les parcs après l'école et le week-end. Mmh. Et ces jeunes filles, elles sont impressionnantes parce qu'elles ont déjà le sens du but. On voit souvent dans les clubs en France les petites qui jouent, mais qui ont l'effet grappe, qui sont concentrées autour du ballon et qui n'ont pas encore acquis la passe, les directions des courses, etc. Là-bas, dès 4-5 ans, elles savent où il faut aller marquer. Et d'ailleurs, on le voit après chez les grandes. C'est un rouleau compresseur. Elles arrivent à 12 dans la surface de réparation, au point que le commentateur ne reconnaît pas la joueuse qui marque.
C'est génial. terrain économique très florissant aussi, dites-vous, le foot aux États-Unis. On parlera de votre tour du monde. Vous êtes allé, vous avez traversé les continents et avec des spécificités vraiment par continent et par pays. On ira notamment à Tokyo avec vous, Mélina Bouetti, pour parler de la réalité de ce foot dans le monde. 33 millions de licenciés en effet et de ces 170 000 licenciés françaises. À tout de suite sur Europe 1.
Faut que je vous dise un mot du podcast Les Attaquantes,
ah oui, formidable,
qui est produit par Europe 1, un podcast en 7 épisodes, à la rencontre des joueuses, des coachs, des arbitres, mais aussi des supportrices, des commentatrices, on met tout au féminin là. Bref, toutes celles qui sont en train de révolutionner le foot et dont on parle ce matin avec vous, Wendy, jusqu'à 10h. Alors pour écouter, très facile, Les Attaquantes est disponible sur Apple Podcast et sur toutes vos plateformes préférées.
Voilà, ça éclaire encore le débat du jour sur à la fois la spécificité du foot féminin, Lionel Rousseau, vous nous le disiez, qui ramène aux valeurs du sport amateur, celui qu'on aime, qui est plein d'humanité, de repères aussi, de beaux jeux, de technicité, sans la triche, et puis problème aussi de la dimension économique du foot, qui pour le coup auréole le foot américain. Nous en parlions il y a un instant avec Mélina Bouetti, et Anissa Haddadi, pendant la pause, vous l'évoquiez encore. Là-bas, aux États-Unis, le soccer est un sport féminin, et les joueuses féminines sont des stars pour la plupart.
Alors ce sont des stars, et c'est le seul pays au monde où les filles sont meilleures que les garçons au football. Elles sont largement meilleures.
Elles n'ont pas au football américain, pour le coup, ça s'est réservé
au
garçons.
Elles ont 3 Coupes du Monde. Eux n'ont même pas été qualifiés en 2018 pour la Coupe du Monde où la France a gagné. Elles jouent depuis le collège, comme le disait Sandrine. Elles sont super bonnes. Et puis alors, il y a des stars. Les joueuses de football américain, alors le soccer, sont de véritables stars. Prenez Alex Morgan, qui est la star de l'équipe. Elle est sur les tapis rouges. C'est une méga star. C'est la Beyoncé du foot. C'est simple.
Mais c'est une bonne joueuse.
Partout où elle va, c'est une excellente joueuse. Oui. Elle est passée un petit peu, ça a duré 7 mois, mais elle est un peu passée par l'Olympique Lyonnais. Ce qui a permis aussi à la France de rayonner à travers le monde entier, parce que accueillir une joueuse comme Alex Morgan, c'est comme si en France, on vous dit on a Cristiano Ronaldo qui vient jouer au PSG. Mm-hmm. C'est un peu la même chose, ou un peu comme Neymar. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on rayonne dans le monde entier avec Alex Morgan. Alors, elle n'est pas allée rester longtemps, malheureusement. Et elle est mariée avec un joueur de foot qui, lui, est dans l'ombre totale. Donc, pour une fois, voilà, tout s'inverse et c'est pas plus mal. C'est grâce aux Américains.
Et il faut dire aussi, Lionel Rousseau, que la France a eu ses représentantes au sein du championnat américain. On pense à Marinette Pichon, évidemment.
Bien sûr, qui était la première
plus grande joueuse
à partir aux États-Unis, absolument. Amandine Henry, également la capitaine aujourd'hui de l'équipe de France. Mais c'est intéressant, le modèle économique américain, parce qu'il y a un paradoxe quand même. On évoque en effet la supériorité des femmes en sélection, mais il y a aussi le championnat américain qui s'appelle la MLS, où les anciennes gloires, David Beckham notamment, est passé par là, vont jouer aux États-Unis. Des anciens joueurs français sont allés aux États-Unis aussi, où il y a énormément de moyens. Il y a une promotion importante qui est faite autour de ce championnat. Et les Américains eux-mêmes, en tout cas les internationaux américains, jouent aussi dans ces championnats, ou certains jouent dans des championnats européens. Mais la représentativité pour la sélection masculine est évidemment en deçà de la sélection féminine. Il y a ce fossé en fait aujourd'hui avec la représentation de la sélection américaine féminine qui est évidemment la meilleure du monde aujourd'hui, et puis ce qui peut se passer localement sur les terrains où les filles, les stades sont pleins, en effet ce sont des stars, il y a toute une réalité économique de promotion qui est faite autour de ces jeunes femmes, mais il y a aussi ce championnat chez les hommes qui est assez suivi malgré tout de la MLS, puisque ce sont d'anciennes stars qui s'affrontent dans une ligue fermée.
Les Américaines qui sont championnes en titre, suivies de l'Allemagne, 2 victoires en finale, la Norvège, le Japon qui ont remporté chacune la Coupe du Monde à une reprise. Mélina Bouetti, on vous retrouve, vous qui publiez Little Miss Soccer et qui avez fait ce tour du monde des femmes qui font le foot au Japon. On a aussi une équipe nationale féminine importante qu'on retrouve évidemment dans cette compétition. Le Japon a vraiment, dites-vous, inscrit son nom sur l'échiquier du foot international. On a une technicité particulière chez les Japonaises.
Oui, c'est incroyable parce qu'en plus, on ne les a pas vus venir. Et c'est dans ce pays où la culture du football, on pourrait se demander où elle naît. Et en 10 ans, elle a réussi à s'épanouir, à investir les terrains. Et les filles ont été la meilleure option. Donc, c'est extraordinaire ce qu'a réussi à faire Lana Deschicos. C'est lié aussi, la première Coupe du Monde, en tout cas le premier titre mondial en 2011, a été lié au fait qu'il y avait eu un séisme au Japon et que les joueuses se sont battues pour le pays et ont sorti les griffes, on va dire, pour que la nation, redonner à la nation un peu d'espoir, d'élan. Mais à cette époque, Omar Issawa payait, et ses coéquipières payaient leurs billets d'avion pour venir jouer en Allemagne. Donc il y avait ce titre mondial, il est né d'une rage et d'une ferveur nationale qui était importante. Et depuis, elles ont assis un football léché qu'on voit encore dans cette Coupe du Monde, même si on les attend encore, puisque tous les automatismes sont parodés avec cette nouvelle génération qui a intégré l'équipe. Mais voilà, c'est la culture de Lana Deschicos est devenue la culture du football. Et maintenant, ça se joue dans les lycées, dans les universités, un peu sur le même modèle qu'aux États-Unis, mais encore plus tôt, puisque au lycée, c'est déjà très très fort et que le championnat inter-école réunit chaque année en finale 6 millions de téléspectateurs.
Ça, Sandrine Roux, et ça veut dire qu'il y a vraiment des manières de jouer aussi très différentes selon les pays là, qu'on retrouve sur les terrains en ce moment. Il y a une spécificité, vous diriez, culturelle de jeu.
Oui, on retrouve généralement le même jeu chez les garçons que chez les filles. Par contre,
c'est ça. Hein,
voilà, les Allemandes, la rigueur allemande. Il y a pas d'imprévu, très peu. Non, c'est vrai que les Espagnols, on le voit très bien. Un jeu court, rapide. On retrouve quand même cette culture entre les filles et les garçons au plan du football. Mais c'est vrai qu'on, comme le disait Mélina, on n'a pas vu arriver cette équipe japonaise en très peu de temps. Elles ont vraiment réussi à, en tout cas, à être dans les premières mondiales. Nous, on l'a vu un petit peu chez les jeunes, hein, parce que chez les jeunes, elles trustent aussi pas mal de titres. L'année dernière, il y avait le championnat du monde 20 ans en Bretagne, et ce sont les japonaises qui sont championnes du monde. Donc voilà, il y a une jeune génération qui arrive et ils font du très bon travail chez eux.
Catherine viendra réagir dans un instant. Elle suit aussi en famille cette Coupe du monde féminine et nous dira pourquoi elle est aussi entraînée par cet enthousiasme. À tout de suite avec nos différents invités, les yeux dans les bleus. À tout de suite sur Europe 1, Julie.
On fait le tour de la question avec laposte.fr/pro, la solution des pros pour faire garder son courrier pendant les vacances d'été. Pour la première fois, le mondial féminin se déroule en France jusqu'au 7 juillet. Alors l'effet mondial est extraordinaire et on ne peut espérer, bien sûr, qu'espérer que notre équipe de France aille le plus loin possible, Wendy.
La France qui ce soir affronte le Nigeria en direct de Rennes, 21h, à suivre dès 20h sur Europe 1. Les Françaises qui sont déjà qualifiées pour les huitièmes de finale, cela dit, entre 9 et 10 millions de téléspectateurs côté français pour suivre ces premières rencontres. Les chiffres sont magnifiques et on voit cette réalité avec nos invités derrière, Lionel Rosso, Sandrine Roux, Mélina Bouetti, Anissa Haddadi et Julien Froment qui seraient aux commentaires ce soir. Vous êtes déjà à Rennes depuis quelques heures, Julien. On a des destinées intéressantes et je pense aux enfants du pays qui seront et qui sont peut-être déjà acclamés dans la presse régionale. Une des joueuses d'ailleurs scrutée et applaudie, c'est Eugénie Le Sommer, attaquante et meilleure buteuse. C'est une enfant de la Bretagne dans son parcours, Eugénie.
Oui, alors elle est née à Grasse, mais c'est vrai qu'elle a passé la majeure partie de sa vie en Bretagne. Voilà, exactement. Et donc, elle est reconnue comme la régionale de l'étape, au même titre que Grid Jembok, la défenseuse, qui, elle, a grandi du côté de Brest. Oui, elle est très attendue. Alors, je ne veux pas décevoir le public breton et le public rennais, mais normalement, ce soir, elle va être remplaçante. Il faut l'aménager.
Bien sûr.
La meilleure buteuse de l'équipe de France. Mais oui, en effet, il y a beaucoup de joueuses de l'équipe de France qui sont originaires de la région Bretagne. Et forcément, elles vont être acclamées, mais comme toutes les autres joueuses de l'équipe de France.
Bon, il faut que ça se passe bien ce soir, Sandrine Roux, mais on ménage en fait un petit peu les troupes aussi, étant donné qu'on est déjà qualifié pour les huitièmes.
Oui, c'est important. C'est important parce que la route risque d'être longue. Enfin, en tout cas, on la souhaite la plus longue possible. Et c'est vrai qu'en plus, Eugénie avait quelques petits soucis musculaires. Donc, je pense que c'est important, effectivement, de faire tourner. Et puis, il y a des joueuses qui sont sur le banc, qui attendent qu'à jouer et qui sont aussi performantes. Et c'est ça la force aussi de cette équipe de France. C'est que les 23 joueuses qui sont présentes, sont capables de rentrer à n'importe quel moment, d'amener de la qualité et sans que l'équipe soit trop désorganisée. Et donc, effectivement quelques petits changements, mais je pense que c'est important aussi de garder de la fraîcheur pour la suite.
Catherine, vous êtes avec nous du Loiret, de Dordive au 39-21. Bonjour Catherine.
Bonjour, bonjour à tous et à toutes.
Alors, vous suivez cette Coupe du Monde féminine en famille, si je comprends bien?
Oui, voilà, j'ai entraîné tout le monde, mon mari, mes enfants. Oui. Bon, ils sont pas forcément, nous sommes pas ensemble parce que j'en ai un à Nancy et puis un autre côté de chez moi. Mais je les ai entraînés depuis, moi je suis ça depuis l'équipe de France féminine, je la suis depuis 2-3 ans.
Oui.
Donc j'ai un peu entraîné tout le monde parce que je trouvais leur jeu très bien, très beau. Voilà, ils prennent, elles ne discutent pas les décisions de l'arbitrage, elles jouent avec leur cœur, enfin bon, elles ont envie d'aller au bout avec un courage absolument pour des femmes. Ayant fait un an de football, je peux vous dire, et j'avais 40 ans à l'époque,
sympa, oui, oui.
J'ai fait un an de football, je peux vous dire que c'est très très dur, très physique, donc voilà, et que je pense que quand on les regarde, elles font passer un message que le foot féminin est fait pour tous les enfants. Si j'avais une fille, j'aurais bien aimé qu'elle fasse du foot.
Bon, vous avez deux garçons qui, j'imagine, sont aussi un peu accros au foot, ou c'est pas forcément leur sport de prédilection?
Ah si, moi j'ai baigné dans le foot, voilà. Mon papa était arbitre de touche, mes enfants depuis tout petit, mon mari,
super, ouais.
Voilà. Même mes sœurs ont toujours aimé le foot. Leur mari n'aimait pas, mais ils regardaient toujours les foot.
Voilà, mais c'est intéressant ce que dit Catherine, et ça revient aux valeurs que nous partagions d'entrée de jeu, Lionel Rousseau, avec ses filles qu'en dehors de la Coupe du Monde, on peut suivre sur les terrains, mais moins que dans ces événements très, très médiatisés, car à côté de l'OL qui rafle tout l'Olympique lyonnais et qui a de l'argent pour justement mettre en valeur ses joueuses, c'est difficile de suivre des matchs de filles. Hein,
effectivement, alors l'AD1 féminine est en train de se développer, ça sera intéressant d'ailleurs de voir après la Coupe du Monde si il va y avoir des dividendes, si le football féminin va récupérer en effet l'investissement de cette Coupe du Monde, mais en effet c'est extrêmement compliqué pour le développement et du football féminin, du sport féminin en général. Il y a un côté un peu militant, mais qui peut être embarrassant pour les filles qui jouent ce soir. C'est-à-dire que je pense que les objectifs sociaux, de parité, d'égalité, les dépassent un peu quand même à un moment donné. C'est-à-dire qu'on veut en faire des symboles de la parité, de l'égalité, regardez, les filles jouent mieux que les garçons, etc. Et c'est très bien que ce débat existe, mais moi, j'ai l'impression qu'elles sont aussi dans leur sport, qu'elles sont dans leur mission, dans leur passion.
Ça les oblige,
et que ça les dépasse, ouais. Et que ça les dépasse un petit peu quand même. C'est une pression supplémentaire sur leurs épaules qui peut être à un moment donné un peu embarrassant.
Et qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs de ce débat, Mélina Bouetti, avant de vous donner la parole à Nissa, sur cette recherche de parité et ce discours qui peut peut-être un peu les handicaper?
Déjà, la comparaison entre
un peu systématique.
Football féminin et masculin, je la trouve inerte parce qu'en réalité, elle apporte rien. Ce qu'on a à commenter, hein, finalement, c'est ce qui se passe sur le terrain. Et je crois que les filles font ce sport pour les joies du rectangle vert et pas plus. Effectivement, on est amené à parler de modèle économique et de marché puisque maintenant la médiatisation s'accélère. Évidemment que il y a des combats sociaux à mener en faveur du droit des femmes et cette mouvance, elle n'est pas que dans le foot, elle est générale. Derrière ça, il y a un modèle de société qui est très clair. Est-ce qu'on va aller vers un sport business, un football business? Et dans ce cas-là, les filles progresseront et atteindront des salaires toujours plus grands. Ou est-ce qu'on reste sur un football, celui qui nous ressemble? Pourquoi il nous ressemble? Parce que les filles ne sont pas encore déconnectées de la réalité, ne touchent pas des salaires mirobolants et ont encore les valeurs et l'essence même du football, de sa pureté. Donc, et voilà, c'est très difficile de se positionner là-dessus, c'est politique. Moi je suis d'avis, je répéterai un petit peu les mots d'une pionnière, qu'une pionnière rémoise dit dans notre documentaire pour clôturer, elle dit « moi je n'aurais pas aimé être professionnelle ». Sous-entendu ce qui va nous arriver. Même, c'est pour ça qu'il faut que ce soit contrôlé par les instances et je pense que l'enjeu prochain sera là.
Merci Mélina Boitier, ex-joueuse, journaliste. Vous avez joué au Celtic Marseille et à Juvisy et vous publiez Little Miss Soccer, le tour du monde des femmes qui font le foot. Vous avez rencontré ces femmes dans le monde entier. C'est passionnant avec Candice Prévost et une belle augmentation du nombre de licenciés en France. On va y revenir dans un instant. Plus 17% l'an passé par rapport à la saison précédente. On est à 170 000 filles qui jouent au foot en France et qui ont leur licence. À tout de suite sur Europe 1. Je vous donne la parole à Nessa.
Le tour de la question sur le foot au féminin à l'occasion de l'engouement provoqué en France par le mondial sur ce sport et sa pratique. Wendy Bouchard.
Et la folie ce soir au Roazhon Park de Rennes pour le dernier match du groupe A France-Nigeria à suivre à partir de 20h sur Europe 1. J'ai oublié de remercier Catherine qui nous disait le plaisir qu'elle trouve en famille à suivre ces différents matchs des Bleus notamment. L'engouement du foot féminin est important pour cette Coupe du Monde en France, nous dit Thibaut sur le hashtag Europe 1. Mais l'évolution vers le sport business doit se faire pas à pas et surtout pas au détriment des belles valeurs qui se dégagent sur les terrains féminins notamment. En effet, Vivi nous écrit, les joueuses de l'équipe de France sont des modèles pour nos petites filles en club et c'est cet effet qu'on attend aussi. Anissa Haddadi, on le rappelait, 170 000 licenciés aujourd'hui en France sur 2 millions de licenciés hommes, mais probablement un engouement aussi.
Ouais, c'est pas beaucoup, 170 000 c'est pas beaucoup, Sandrine le disait, il y a encore pas longtemps, elles étaient que 50 000 hein, à être licenciées les filles, donc il y a une évolution certes. Moi je pense qu'il va y avoir un gros boom au mois de septembre, là je pense qu'il y a plein de petites filles qui suivent les matchs, l'été va passer, elles vont toutes vouloir s'inscrire au foot à partir du mois de septembre. Je pense qu'il y a des parents aussi, peut-être un peu plus ouverts d'esprit, qui vont accepter que leurs filles jouent au foot, etc. Tout ça c'est bien. Maintenant, on en est loin hein, du foot business, hein. On en parlait avec Mélina il y a un instant. Est-ce que faut que le foot féminin devienne foot business comme les garçons? On en est très loin. Il faut quand même savoir que l'année dernière, les filles de Guingamp, qui jouent en première division, ont fait la grève parce que tous leurs déplacements étaient prévus en bus de toute la saison. Ouais. Qu'elles aillent en Corse ou à Brest à côté.
Et pas en avion comme leurs homologues.
Ouais. Et pas en avion comme leurs homologues. Donc ouais, le foot business, on en est très loin. Les filles touchent des petits salaires. Sandrine, je pense qu'elle pourra en parler. Mais c'est
combien
pas
parce... en moyenne, Sandrine?
Sur la D1, c'est à peu près, allez, on va dire 1500 de moyenne.
En première division. Imaginez un joueur de foot en Ligue 1 qui gagne 1500
euros. Julien Froment.
Pour les chiffres, c'est 4000 euros, mais en comptant l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain.
Ouais, ah oui, les stars. Hein.
Très bien, les joueuses de l'équipe de France. Hein,
voilà, c'est, donc ça fait la moyenne une poignée, redescend hein. Sans Lyon et sans le PSG, la moyenne descend à 2500 euros environ.
C'est ça. Donc, j'alerte effectivement un petit peu parce qu'on a de plus en plus de jeunes, on le voit nous dans les sélections des équipes de France jeunes, de plus en plus de jeunes qui arrêtent leurs études et c'est dramatique. Elle joueuse pro, pourquoi pas? Oui, c'est un rêve, mais même une joueuse pro, il va falloir qu'elle travaille une fois la carrière terminée. Donc quand on voit effectivement des parents aussi qui imaginent que les joueuses gagnent comme Mbappé et comme le reste, enfin, faut avoir les pieds sur terre. Aujourd'hui, on vit pas avec le football féminin, on n'en vit pas. Donc il faut prévoir l'après-carrière et il faut arrêter de s'imaginer que toutes les joueuses vont devenir pro. Déjà, il y aura pas de place pour tout le monde. Et puis les salaires aujourd'hui sont quand même pas mirobolants et c'est pas après-demain que les joueuses vont toucher les salaires de Mbappé. Faut rester les pieds sur terre.
Pour beaucoup une passion, voire une bouée de sauvetage dans certaines circonstances, mais une passion d'abord et ensuite on raisonne avec la réalité aussi économique.
Tout à fait.
Lionel Rousseau, un petit mot.
Oui, attention à ce que ça ne devienne pas un miroir aux alouettes. Oui. En effet, ça peut faire rêver, il y a cet engouement, donc on est porté. Et moi j'aimerais rebondir aussi sur peut-être l'augmentation des licenciés à la rentrée, ce qui est très bien pour la fédération. C'est d'ailleurs l'objectif de la fédération et le combat qui est mené pour le foot féminin depuis des années. Et c'est un aboutissement et une réussite d'ores et déjà, quel que soit le parcours de l'équipe de France, mais il y a une politique à mener aussi pour l'accueil de ces jeunes joueuses. C'est-à-dire que s'il y a une augmentation des licenciés, footballeuses,
il faut des terrains,
il faut des terrains, il faut les bénévoles, c'est bien, mais ça suffit pas. Des éducatrices, des infrastructures. Et à ce niveau-là, pour l'instant, les filles sont encore très en deçà de la représentation des garçons.
Et pour l'instant, il y a que les gros clubs qui donnent parce qu'ils ont les mécènes derrière. Vous parlez de l'Olympique
Lyonnais. Mais Wendy, même les gros clubs s'interrogent. Laurent Nicolin, le fils de Loulou Nicolin, qui a été le précurseur d'ailleurs avec Jean-Michel Aulas à Lyon pour avoir une section féminine, s'interroge. Lui, il accorde 2 millions d'euros de budget à l'équipe féminine.
C'est beaucoup
à l'aune du football féminin.
Mais par
rapport aux garçons. Et il se demande d'ailleurs si à un moment donné, ces 2 millions d'euros, pour des réalités économiques, il ne va pas les accorder plutôt aux garçons pour obtenir le transfert d'un joueur supplémentaire et donc déshabiller le football féminin. Ouais. C'est une vraie, il y a une vraie problématique et une vraie question. Alors c'est vrai qu'il peut
et
y
il
avoir.
Il se pose la question en ce moment. En
oui,
plus,
bien hein, sûr. C'est vrai. Pour ça, malgré l'engouement malgré populaire qui existe aujourd'hui.
Merci. Voilà, bah, on est loin d'avoir clos le sujet, mais en tout cas, on soulignait l'enthousiasme partagé et on sera avec vous. Je sens que vous êtes déjà fébrile, Julien. Ça va être quelque chose ce soir. Hein. À Rennes.
Bon,
on
ça va, serein, très serein.
Hein,
je compte sur le 3/3 pour les Bleus.
Ouais, bah, très bien. Merci pour le pronostic. À rencontre à 21h, mais on vous suit dès 20h, cher Lionel. Hein, Rousseau sur
Europe
1.
Avec grand plaisir, à 20h. Nous serons là. Toute l'équipe.
En compagnie de l'ancienne gardienne internationale de l'équipe de France, avec ses mots choisis, Sandrine Roux. On était ravis de vous accueillir, Sandrine.
Merci beaucoup.
Et Danissa Haddadi, que vous retrouvez le mercredi en entraînement pour la Meuf FC Club de Foot à Europe, mais surtout tous les jours à l'antenne, bah, juste après nous, hein, aux côtés d'Anne Romanoff jusqu'à Monsieur Carl Zéro. À tout à l'heure,
exactement.
Anissa.
Et puis un petit mot encore des attaquantes. Hein, vous savez, ce podcast qui cartonne sur les plateformes d'écoute, c'est un podcast européen en 7 épisodes que vous pouvez donc découvrir. Attaquantes disponible sur Apple Podcast et sur toutes vos plateformes.
Énorme succès. Ouais, à tout à l'heure, Julie. Juste après la pause, on se retrouve avec le procès des stars. Emmanuel Pierrat, l'avocat, est avec nous.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.